Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 août 2024. Alors vous m'excuserez un peu pour le son aujourd'hui parce qu'il y a un peu des échos, de l'écho. Nous sommes dans une forme de cathédrale où je me trouve ce matin. Il se trouve que j'ai dû me lever très tôt parce que finalement, vu ce qui se passe cette nuit, vu ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, j'ai jugé qu'il était temps de parler un peu plus tôt ce matin, parce que la semaine, en tout cas déjà la journée d'aujourd'hui, risque d'être relativement compliquée. Alors, est-ce qu'on va vivre un Black Monday, encore une fois, est difficile à dire. En tout cas, en ce qui concerne le Japon, on est en train de le faire. C'est assez violent ce qui se passe. Donc, j'ai dû trouver un endroit où me planquer pour pouvoir tourner cette vidéo ce matin. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop, mais on va quand même faire le tour de cette journée qui promet d'être mémorable. Donc oui, on ne va pas parler de Black Monday parce que c'est trop tôt, mais c'est vrai que ça en prend gentiment la direction. On va pas dire que c'est vraiment la panique, mais ça a le goût de la panique, ça a l'odeur de la panique. Peut-être que c'est vraiment de la panique, mais en tous les cas, après une fin de semaine spectaculaire avec tous ces chiffres trimestriels, toutes ces annonces négatives sur le secteur des semi-conducteurs, ces allers-retours qu'on a vécu en fin de semaine, plus ces chiffres de l'emploi qui étaient catastrophiques vendredi dernier, forcément, on aurait pu espérer que ça s'arrête là et puis qu'on finisse la semaine en mettant ça derrière nous et qu'on puisse recommencer une nouvelle avec une page blanche relativement confortable. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas. On l'a déjà vu en fin de semaine dernière, c'est que finalement, on a changé notre fusil d'épaule. Là, hein, pendant des mois, on a attendu cette baisse des taux qui signifierait la fin de l'inflation. Et puis finalement, là, on est en train de se dire, ben, la baisse des taux, elle va servir à sauver l'économie qui a l'air vraiment de ralentir, et c'est ce qui commence à faire très très peur à la plupart des intervenants. On est passé de vivement le début de la baisse des taux et la fin de l'inflation à attention, la crise économique arrive, la récession est à nos portes. C'est devenu vraiment très obsessionnel ces dernières heures et on a l'impression que les choses s'intensifient extrêmement rapidement. Alors, cette obsession des taux d'intérêt est toujours extrêmement présente. Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'on est passé de 0,25% attendu à 100% au mois de septembre à 0,5% attendu à 72% au mois de septembre. Donc, on est déjà en train de changer notre fusil d'épaule et on est déjà en train de se dire, eh ben oui, les taux vont devoir baisser, mais vu la situation économique, vu l'état de l'économie, vu le fait que l'emploi est en train de ralentir, vu le fait que potentiellement on peut rentrer en récession, eh bien, il va falloir que Powell se bouge les fesses et baisse les taux plus vite que prévu. Donc on est en train déjà de parler de 0,5% de baisse des taux pour le mois de septembre. Et puis surtout, si on va un petit peu plus loin dans les projections, les gens sont déjà en train de se dire, eh ben, ils vont certainement nous baisser les taux de 1,25% d'ici la fin de l'année. Alors, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines en arrière, on espérait déjà que si on faisait 0,25, c'était pas mal. Maintenant, on est déjà de revenu à 5 baisses de 25 points de base. Et d'ici la fin de l'année, il va falloir les caser, vu le nombre de meetings qui restera d'ici Noël. Mais en tout cas, la panique est là, le doute est là, et le mot récession ne fait plus peur. On ose de nouveau le prononcer régulièrement. Et ce qui est assez phénoménal, comme chaque fois qu'on a ces périodes de correction massive ou crash boursier, on va pas appeler ça un crash boursier parce que c'est encore beaucoup trop tôt pour le qualifier comme tel, mais on va inévitablement commencer à en parler à un moment donné. Est-ce qu'on est dans un crash? Est-ce que vraiment on va perdre 30 ou 40% cette fois? Quand vous regardez sur certains comptes Twitter, il y en a qui ont déjà des targets sur le S&P qui sont complètement ahurissants. Donc on a les oiseaux de mauvaise augure qui sont tous de sortie. Ça, c'est une évidence. Mais ce qu'il faut surtout bien comprendre et bien retenir, c'est que le sentiment global a complètement tourné. Hein. Il y a quelques semaines en arrière, c'était racheter sur faiblesse absolument. Et aujourd'hui, on est en mode presque panique puisqu'on a vu que la volatilité a littéralement explosé. On est à 23% de vol aujourd'hui. Et puis que le greed and fear, l'indicateur de peur de CNN, devrait passer en extrême peur dès l'ouverture de la séance aujourd'hui aux États-Unis parce que les gens sont vraiment terrifiés pour le moment. Depuis que je suis debout, je suis debout depuis minuit heure Genève, ce qui fait chez moi à peu près 2 heures du matin. Et depuis l'ouverture du Japon, eh bien, le Japon tombe comme une pierre. Il n'arrête pas de baisser. Je crois que là, on est à 6,5% de baisse sur le Nikkei. Et ce qui est assez impressionnant aussi, c'est qu'on a déclenché les circuits breakers. Vous savez, ces circuits qui ont été mis en place, ces alertes qui ont été mises en place, quand ça baisse trop vite, trop fort, les indices s'arrêtent pendant une demi-heure pour laisser le temps aux traders de réfléchir avant de faire n'importe quoi. Et ensuite, on rouvre ce qui, normalement, est censé calmer le marché. Ben là, ça ne fonctionne pas. Les circuit breakers sont mis en marche déjà plusieurs fois sur le TOPIX au Japon et ça continue de baisser derrière. Donc, ça ne veut pas remonter. Il n'y a plus d'envie de racheter le marché. C'est vrai que la Banque du Japon a laissé entendre qu'elle était prête à monter les taux encore s'il le fallait, pour freiner cette crainte de l'inflation au Japon. Donc ça n'aide pas. Alors juste un petit chiffre pour commencer bien la semaine en termes de chiffres. Le Japon est en baisse de 20% depuis les plus hauts historiques. Les plus hauts historiques, c'était il y a 3 semaines en arrière sur le Japon. Donc on vient de perdre 20% depuis les plus hauts il y a 3 semaines sur le Japon. Alors on n'en est pas encore là sur les indices américains puisque on a passé les zones plus ou moins de ce qu'on appelle une correction puisque les 10% de baisse sont atteints et devraient être atteints rapidement ces prochaines heures sur les indices américains. On n'est pas encore en mode bear market. Mais en tout cas, c'est en train d'être très très moche sur les indices et le Japon est en train de nous montrer la voie en tous les cas ce matin. Donc évidemment que la question que tout le monde va se poser, c'est est-ce que c'est une prise de profit temporaire et que c'est l'opportunité d'achat d'une vie? On va dire que c'est ce qu'on espère bien sûr, ou est-ce que c'est quelque chose de plus grave et de plus important en termes de conséquences sur les marchés financiers? Alors il faut juste noter une chose, c'est que ces histoires de crash boursiers monumentaux, ça n'est plus arrivé depuis bien longtemps, depuis que les banques centrales sont nos amis et sont là pour nous aider quand ça ne se passe pas très bien. Et donc on a vu ces dernières années, depuis la crise des subprimes, que les banques centrales sont toujours prêtes à agir au mieux des intérêts des investisseurs et on devrait aussi avoir à un moment donné une surprise de la part des banques centrales qui seront encore présentes pour dire mais vous inquiétez pas, on ne va pas laisser tomber l'économie. Déjà, il ne faut pas oublier une seule chose, c'est qu'on parle de baisse des taux au mois de septembre, mais n'oubliez pas un truc, c'est que la Fed a tous les droits de baisser les taux demain ou même aujourd'hui si elle en a le désir. Donc il n'y a pas de règles, ils sont pas obligés d'attendre le meeting de la Fed pour pouvoir baisser les taux. Donc tout est encore possible. Et c'est vrai que depuis la crise des subprimes, à chaque fois qu'on a eu une crise, une baisse violente des marchés, eh bien, on s'est retrouvé sauvé par les banques centrales. Alors tout le monde va avoir les yeux fixés sur la volatilité ces prochaines heures. Et il faut savoir une chose, c'est que la volatilité aujourd'hui est plus ou moins à 23%, qu'on est beaucoup monté par rapport aux 12% où on se traînait il y a encore 15 jours. Mais il ne faut pas non plus oublier et que la volatilité lors du Covid, par exemple, était montée jusqu'à 84%. Donc on a encore de la place pour monter, et si le besoin s'en fait sentir. Alors pour le reste, en dehors de l'économie qui ralentit, en dehors du fait que les taux, on a changé un peu notre perspective par rapport aux taux, en dehors du fait que les chiffres de l'emploi étaient dégueulasses vendredi dernier, eh bien il y a aussi deux, trois petits problèmes qui sont en train de se pointer au niveau des actions, bien sûr. La saison des résultats bat son plein, on a vu la semaine dernière que c'était pas facile, mais surtout ce week-end, il y a eu une grosse annonce, c'est que Monsieur Warren Buffett a annoncé qu'il dégageait la moitié de sa position en Apple, hein. Donc la moitié de sa position. Aujourd'hui, Berkshire Hathaway se retrouve avec 277 milliards de cash. Ça va, mais il a dégagé la moitié de sa position en Apple. Et ça va avoir des conséquences sur les marchés à l'ouverture tout à l'heure. Si on regarde les indications, Apple devrait ouvrir autour de 6,5-7% de baisse ce soir. Donc ça va peser. Et puis on peut s'attendre que ça dégage durant la journée. Parce que maintenant qu'on a appris que Buffett avait réduit sa position, tout le monde va dire qu'il a vu un top et que finalement il se protège pour un éventuel ralentissement économique. Et que comme c'est un visionnaire, eh bien forcément, il a toujours raison. Et puis il n'y a pas qu'Apple qui va aussi peser sur le marché. Il y a aussi Nvidia qui va peser sur le marché. Alors Nvidia, en dehors du fait qu'il y a eu plusieurs calls ce week-end qui sont revenus sur le sujet, que vous saviez cette comparaison qu'on faisait sur Cisco qui était monté au plus haut de tous les temps durant la période de la crise de la bulle Internet dans les années 2000 et ensuite qui s'est effondré littéralement. Beaucoup de gens ont fait cette comparaison avec Nvidia et là, de nouveau, eh bien, ça se repointe et ça tombe. Je ne vais pas dire bien, mais il semblerait que Nvidia ait annoncé un report de production sur sa dernière puce électronique pour l'intelligence artificielle. Donc cette dernière puce, ce dernier semi-conducteur de haute technologie, Blackwell, elle s'appelle, je crois, devrait être décalée 3 mois. Et donc ils ont annoncé ça à leurs clients tout récemment, cette nuit, ces dernières heures. Comme quoi, ben finalement, la production avait quelques problèmes parce que le design de la puce ne fonctionnait pas comme prévu. Donc, c'est une mauvaise nouvelle et on peut imaginer que ça pourrait avoir quelques petites conséquences sur les chiffres de Nvidia qui sortiront d'ailleurs à la fin du mois d'août. Donc là aussi, pression sur Apple, pression sur Nvidia, pression sur tous les Magnificent Seven qui souffrent. Aujourd'hui, on a encore vu ce qui s'est passé la semaine dernière sur Amazon. On peut s'attendre à que tout le monde en prenne pour son grade. Et là, on parle déjà d'avoir effacé 500 milliards de market cap avant l'ouverture du marché américain, juste sur les Magnificent Seven. Et puis, bah, pour le reste, eh bien, ça continue. Alors, le pétrole est en train de se péter la figure. Il a cassé les supports des 74,5 et il arrive en territoire qui laisserait supposer selon le graphique, qui pourrait aller beaucoup plus bas. Pourtant, ce qui contrebalance de l'autre côté, c'est que au niveau militaire, ça chauffe sérieusement au Moyen-Orient. Ça tombe bien parce que je suis au Moyen-Orient. Et on craint effectivement que l'Iran réplique après les assassinats des membres du Hamas la semaine dernière. Et Israël est en alerte, les Américains sont en alerte pour protéger Israël. On surveille tous les éventuels missiles qui pourraient partir de Téhéran. Donc on est en mode attention sur le Moyen-Orient. Donc le pétrole, il baisse parce qu'il a cassé un support technique et parce qu'il y a un ralentissement économique qui est en train de se pointer. Mais de l'autre côté, on pourrait encore avoir un embrasement au Moyen-Orient qui pourrait arranger personne au niveau du pétrole. Donc on n'a pas fini d'en parler. Autre chose qui est en train de se péter la figure big time, c'est les cryptos. Les cryptos se font massacrer depuis la fin de semaine dernière, mais tout particulièrement maintenant. En plus, là, le Bitcoin vient de casser les 55 000 à la baisse, donc un support qu'il ne devait pas casser. Je suis pas expert en analyse technique et encore moins expert sur Bitcoin, mais quand on regarde ce qui est en train de se passer, c'est pas beau et tout le monde est en train de dire attention, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et là aussi, si vous passez un peu de temps sur Twitter, enfin sur X aujourd'hui, vous verrez les targets sur Bitcoin. J'en ai trouvé un qui a un target à 3 000 $ sur le Bitcoin. S'il casse les 55 000, donc il a cassé les 55 000, target 3 000 sur le Bitcoin. Je ne citerai pas le nom de la personne, c'est pas très important, mais on voit qu'on est en mode tout et n'importe quoi pourvu que ça baisse. En résumé, l'ambiance de cette fin de nuit est tout simplement apocalyptique. Les Magnificent Seven vont ouvrir au fond du trou, le Japon est au fond du trou, les cryptos sont au fond du trou, le pétrole a cassé les supports. On parle de ralentissement économique massif aux États-Unis, on parle de récession, on a l'inversement de la courbe des taux qui est en train de se faire, ce qui signifierait justement peut-être potentiellement le début d'une récession. Alors on se raccroche à ce qu'on peut, on se dit qu'on est en année électorale, qu'en général les années électorales, eh bien ça se passe plutôt pas mal. Mais pour l'instant, aujourd'hui, là tout de suite, à l'heure où je vous parle, on sent que c'est vraiment la panique et plus personne ne sait quoi faire. Alors évidemment que généralement, la seule chose qu'on sait, c'est qu'un crash annoncé, ça n'existe pas. Une correction massive annoncée, ça n'existe pas. Quand on regarde les indices boursiers, ne serait-ce que les deux principaux américains, le Nasdaq et le S&P 500, on voit que les tendances ont été cassées. On voit que pour l'instant, on est en train de rentrer en zone de correction. Et puis, je rappelle que la zone de bear market, c'est à moins 20%. Donc, on n'y est pas encore, mais ça peut aller très, très vite, bien sûr, puisque si on rentre vraiment en mode panique, les gens vont pas réfléchir très longtemps, surtout au vu des performances qu'on a déjà affichées jusqu'à maintenant. Le pire qui pourrait arriver, c'est d'avoir eu des performances stratosphériques sur la tech comme on a eu jusqu'à maintenant, et que tout d'un coup, ça se pète la figure, et ça, personne n'a envie de voir ça dans leur portefeuille. Donc je pense qu'on va d'abord tirer et poser des questions ensuite. Nous sommes donc dans une phase de couteau qui tombe, donc on ne faut jamais rattraper un couteau qui tombe, on le sait bien. Donc il va falloir surveiller pour voir à quel moment ça s'arrête, que les vendeurs s'arrêtent. Alors n'oublions jamais qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est extrêmement électronique, beaucoup plus électronique que ce qu'il était il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, pour ceux qui ont déjà vu les crashs précédents. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on peut changer de direction extrêmement rapidement, et ça peut être extrêmement violent également dans l'autre sens. Donc pour l'instant, pas de raison d'essayer de mettre les mains dans la moissonneuse batteuse, parce que c'est beaucoup trop dangereux, mais c'est vrai qu'on va avoir une ouverture extrêmement violente, et maintenant il va falloir savoir si on est en mode crash ou si on est en mode simplement grosse correction avec opportunité d'achat. Pour moi, le mode crash, il a déjà été beaucoup trop abordé dans les médias mainstream. Si vous regardez pas les médias financiers classiques, mais si vous regardez les autres médias classiques, eh bien, vous verrez déjà qu'on commence à parler de crash. Je tombais sur un article dans le Blick ce week-end qui disait déjà ouh, attention, effondrement des marchés boursiers. Alors quand eux commencent à en parler, généralement, c'est qu'on arrive généralement à la fin du mouvement. Mais voilà, pour l'instant, on vit quelque chose d'assez particulier, avec une espèce de conjonction de mauvaises nouvelles qui arrive tout en même temps, sur tous les marchés en même temps, ce qui fait que pour l'instant, les safe havens, il n'y en a plus beaucoup, et tout le monde est en mode, ben voilà, panique. Et donc, comme je le disais en ouverture de cette vidéo, ça a le goût de la panique, ça a l'odeur de la panique. Il se pourrait bien que ça ait peut-être une petite panique quand même. Maintenant, la semaine continue quand même, et si on se base sur les fondamentaux, il n'y aura pas beaucoup de publications économiques. Vous savez, c'est un peu cette semaine de break entre les non-farm payrolls et puis les premiers chiffres suivants qui vont compter pour la suite des événements. Donc on est en mode entre deux, mais par contre, on a quand même beaucoup de publications trimestrielles qui vont nous tomber dessus. Le tableau qui s'affiche devant vous vous le montre très clairement. Vous voyez qu'on va avoir du Palantir, on va avoir du Uber, on va avoir du Supermicro, on va avoir du Shopify, on va avoir du Robinhood, du CVS, du Eli Lilly. Bref, il y a du monde qui vont publier encore cette semaine. On a vu vraiment que pour l'instant, on ne pardonnait pas grand-chose, hein. C'est vraiment, il faut vraiment sortir des résultats impeccables pour que tout le monde court avec vous, sinon ça va être le bain de sang généralisé. Et aujourd'hui, on voit que le marché est très malade en ce début de semaine, que évidemment, il ne va pas pardonner grand-chose. Il faudra donc être très méfiant et surtout ne pas faire de prisonniers dans cet environnement extrêmement pourri dans lequel nous sommes en ce lundi matin. Donc voilà, pour l'instant, pas grand-chose de plus à dire. Dans toutes ces périodes extrêmement volatiles et extrêmement tendues, eh bien, il faut être calme et puis essayer de réfléchir un peu rationnellement. Il y aura des opportunités d'achat, c'est sûr. Tout n'est pas fini, tout n'est pas en train de s'arrêter, mais l'économie montre clairement des signes de difficulté, des signes de ralentissement. Ça, il faut en tenir compte. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Donc, on est en train de switcher notre mentalité de méga bullish. Je veux surtout pas rater le prochain bull market de la technologie qui va nous emmener à 250 000 sur le Nasdaq. Ah, laissez-moi sortir et je reviendrai quand les choses se seront calmées. Donc, journée spectaculaire à l'affiche pour tout le monde aujourd'hui. On se revoit demain matin pour faire le point sur ce qui s'est réellement passé, puisque pour l'instant, je parle au milieu de la nuit avec que des indications. Donc, moi, je vais retourner à la piscine. Je vais suivre tout ça sur mon smartphone et puis je vous retrouve demain pour faire un débrief complet, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. Et puis, n'oubliez pas d'aller aussi voir les espèces de nouvelles vidéos que je vous fais en ce moment, où je vous ai donné typiquement sur une vidéo hier mon chemin de où est-ce que je trouve toutes mes informations tous les jours. Bref, passez quand même une très très bonne journée. Et moi, je me réjouis déjà de vous voir demain matin à la même heure et au même endroit. Allez, bye bye.